France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et si un jour, pas si lointain, l'opéra, ce genre d'art total, n'était qu'un souvenir ? S'il disparaissait, il y a le public qui vieillit, il y a le modèle économique en question, il y a les responsables politiques, nationaux, locaux, qui le regardent parfois d'un mauvais œil, il y a l'offre artistique très ancrée dans le passé, et il y a la crise sanitaire qui n'a rien arrangé. Pour débattre de toutes ces questions, si on y arrive, jusqu'à 9h, deux invités hautement qualifiés ce matin. Caroline Saurier, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'Opéra de Lille depuis 20 ans, et à la demande de la ministre de la Culture, vous avez rédigé un rapport sur la politique de l'art lyrique en France, rapport remis à Roselyne Bachelot il y a quelques mois. Et puis, face à vous, Jean-Philippe Thiellet, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Bonjour
Caroline. Président du Centre National de la Musique, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes là ce matin. Vous venez de publier aux éditions Les Belles Lettres un ouvrage, L'Opéra, s'il vous plaît. On expliquera d'ailleurs peut-être ce titre tout à l'heure. Plaidoyer pour l'art lyrique, et vous avez été le directeur adjoint de l'Opéra National de Paris. Alors, il y a le ressenti, les impressions, vos constats, vos observations d'acteurs de ce monde lyrique, mais de façon factuelle, pour rédiger votre rapport, Caroline Saurier, pour écrire votre essai, Jean-Philippe Thiellet, sur quelles données, sur quels chiffres vous appuyez-vous ? Y en a-t-il d'ailleurs ? Caroline Saurier ?
Oui, alors effectivement, c'est une question que je soulève dans ce rapport. C'est le manque de données chiffrées, le manque d'éléments. Alors, il y a des éléments intéressants. Il y a eu une étude en 2017 qui a été réalisée par les forces musicales qui donne une photographie. Ce qui est déjà intéressant, et ce qui donne quand même des éléments. Il y a également la Réunion des Opéras de France qui a fait tout un travail depuis de nombreuses années, avec tous les ans une collecte de données auprès de tous les opéras. Mais les opéras, faut-il encore qu'ils répondent ? C'est pas toujours le cas. De temps en temps, il y a des années où il n'y a pas de chiffres. Donc, il est impossible d'analyser, en fait, de faire une analyse. Donc, on a des chiffres, mais malheureusement, quand on veut essayer d'analyser l'évolution, quand on veut essayer d'analyser les équilibres ou la cohérence d'ensemble, ça, effectivement, c'est très difficile.
Jean-Philippe Thiellet, votre plaidoyer pour la lyrique s'appuie-t-il sur des données tangibles, chiffrées, ou c'est davantage une impression d'années, de plusieurs années ?
Non, les deux. Je pense que la recherche économique sur le monde lyrique est pas très riche. Et d'ailleurs, c'est peut-être une idée pour des doctorants ou des économistes. C'est un champ de recherche, le spectacle vivant passionnant. Il y a l'intuition et le sentiment, mais il y a les réalités. Et ce qui est très intéressant dans le rapport administratif rendu au ministère par Caroline Saurier, c'est l'objectivation de certaines choses. Il y a moins de spectacles, il y a moins de levées de rideaux par spectacle. Et au niveau global, il y a moins de spectacles aujourd'hui. Aujourd'hui, lyrique en France, qui a 20 ans. Ça, c'est une absolue certitude. Ça s'explique très bien, notamment parce que les coûts augmentent, la masse salariale, les salaires augmentent, les coûts de production, ils sont contenus, mais ils augmentent quand même. Il y a des exigences de ne pas trop augmenter le prix du billet, donc ça caractérise une crise des ciseaux assez nette, où les coûts augmentent, les recettes stagnent ou baissent. Et donc, c'est ça qui caractérise, je crois, de manière objective, une situation dangereuse d'un point de vue économique.
On sait combien de personnes en France vont à l'opéra. Alors il y a des gens, il y a le nombre de billets vendus, mais il y a des gens qui vont plusieurs fois à l'opéra par an. Par exemple, moi je me pose toujours la question sur France Musique, on parle beaucoup d'opéra, sur les 150 000, 200 000 personnes qui nous écoutent le matin, et combien de personnes qui vont à l'opéra chaque année, et combien de personnes même qui aiment la musique et qui sont déjà allées une fois à l'opéra dans leur vie.
Alors effectivement, c'est une question très juste, parce que on a tendance à donner, mais ça rejoint aussi un peu les chiffres du numérique ou voilà tous ces chiffres qui peuvent circuler. On donne les chiffres de public, mais qui sont en fait les billets. Et vous avez tout à fait raison de dire que ça ne concerne pas les personnes. Donc effectivement, ces chiffres-là, on les a pas. Tout à fait.
Une des difficultés, c'est aussi la grande diversité des maisons d'opéra. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre en termes de statut, etc. Et la question de la donnée spectateur, c'est l'essence dans le moteur, en quelque sorte. Donc selon qu'on a un système d'information très détaillé ou pas, on connaît, on sait qui est venu voir quoi. Donc, mais globalement, on peut pas tellement répondre à votre question de manière précise.
On va écouter de la musique, on part voir l'un des grands succès de l'Opéra de Paris de ces dernières années.
Mmh.
extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Malheureusement, on n'a pas entendu Sabine de Vielle, mais on va entendre de la voix jusqu'à 9h. Ici, c'était la Capella Mediterranea dirigée par Leonardo Garcia Alarcón, enregistrée par France Musique. Ces Indes galantes, mise en scène par Clément Cogitor, avec les danses urbaines réglées par Bintou Dembélé. Énorme succès à l'Opéra Bastille en 2019. Est-ce que ce succès-là, il révèle des choses et est-ce qu'il ne cache pas une forêt, Jean-Philippe Thiellet?
C'est formidable que vous ayez choisi
cet extrait. Vous l'évoquez dans le livre.
Oui, parce que bon, on a commencé à évoquer une crise économique, des menaces économiques. Je pense qu'il y a des menaces sociales ou sociétales et des menaces esthétiques dont on peut reparler sur l'opéra et qui, les trois conjugués, caractérisent une situation difficile. Il y a eu des tas de débats sur la disparition de l'opéra, les années 60, mais même encore avant. Mais sauf que à cette époque-là, les contraintes économiques étaient moins fortes, il n'y avait pas Netflix et les jeunes générations n'étaient pas ce qu'elles sont. Et donc le fait que vous ayez pris cet extrait, je crois, montre une forme de direction dans laquelle les opéras, pour certains, vont déjà beaucoup, et il faut rendre un grand coup de chapeau aux directeurs d'opéra, aux directrices d'opéra, c'est un métier extrêmement difficile, qui est de s'ouvrir, et là, lorsque l'Opéra de Paris avait fait appel à Clément Cogitor et à des danseurs de Crump pour être sur le plateau de Bastille, en plus avec un ensemble baroque dans le grand vaisseau de 2700 places, eh bien c'était un peu disruptif, et je pense que c'est une piste pour que les opéras s'ouvrent encore plus, deviennent des formes d'hyper-lieux où des danseurs de hip-hop peuvent venir interpréter du Rameau. L'exigence, c'est celle de la qualité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dégrader. La démocratisation et l'ouverture ne doivent pas être de la démagogie ou de la démotique, et la qualité doit toujours être là parce que l'opéra l'exige.
Tous les sujets s'entremêlent, mais on va quand même parler, si vous voulez bien, d'abord de cette question du public, du renouvellement du public que vous abordez, Caroline Sourier, dans votre rapport. Comment le renouveler? Comment le rajeunir? Il y a ce que vous faites, vous, à Lille, et puis il y a ce que font les 26 maisons d'opéra en France.
Oui, même la trentaine, en fait. Hein,
par 26 en région et 4 à Paris.
Voilà, c'est ça. Mais l'Opéra de Paris, évidemment, étant à part, mais les autres maisons à Paris étant finalement un peu sur les mêmes modèles. C'est effectivement une question intéressante, donc aussi par rapport à ce que dit Jean-Philippe Thiellet, et puis aussi ce que Jean-Philippe dit dans son livre, où il est quand même très très sévère justement sur cet aspect-là des maisons d'opéra. Je crois qu'il faut redire aussi que finalement ces maisons d'opéra, c'est très récent leur restructuration justement au niveau national de ce réseau. On n'est pas du tout comme les centres dramatiques nationaux qui ont été créés dans les années 70, tous sur le même modèle. Voilà, les opéras, c'est une histoire, l'histoire de chaque ville.
Avec plein de structures juridiques différentes.
Chacun porte un petit peu un projet différent, effectivement, comme le disait Jean-Philippe, avec des maisons très très différentes. Mais ça s'est énormément transformé ces 20 dernières années, parce que je le dis par rapport à ce que vous dites sur le public. Et que c'est juste Justement, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment mis en avant, qu'on n'a pas suffisamment fait connaître. Mais en tout cas, il y a énormément d'initiatives. Je pense que, par exemple, pour prendre un exemple, les opéras sont ceux qui réalisent les projets participatifs, par exemple, les plus ambitieux. Il n'y a pas l'équivalent dans d'autres secteurs. Et justement, pour aller vraiment chercher des enfants et même des adultes sur des projets, vraiment les faire participer. J'étais, parce qu'on parlait de l'opéra baroque, effectivement, qui attire un nouveau public, parce que c'est pas tout à fait le même public que sur le public romantique, l'opéra romantique qui attire un public finalement qui sait ce qu'il veut voir. Voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Sur l'opéra baroque, on est déjà sur un public plus nouveau et finalement peut-être plus curieux. Mais je suis allée encore récemment à l'opéra de Rennes, où on avait une reprise d'une création de trois contes de Gérard Pesson qui s'est redonnée. Et bon, en lisant le livre de Jean-Philippe Thiellet, ça m'a fait un peu bondir quand effectivement il dit, mais bon, le public de l'opéra, c'est l'homme blanc de 50 ans.
Riche et de centre-ville.
Voilà. Et vraiment, moi j'étais au parterre et entourée d'un public extrêmement diversifié et qui appréciait cette musique de Gérard Pesson, qui était vraiment un public très ouvert, très disponible. Donc oui, ça a énormément évolué, mais évidemment, d'abord tout le monde ne peut pas avancer au même rythme, et puis évidemment qu'il faut qu'on le fasse connaître et il faut que peut-être on soit plus clair sur ces questions-là. Après, la baisse évidemment du nombre de publics ou du nombre de représentations, qui est une vraie question et qui est pour moi la question prioritaire, c'est aussi parce que en quelques années, on a eu près de 9% de baisse de subventions. Donc évidemment que on est obligé de réduire là où on peut.
Jean-Philippe Piellet, vous dramatisez les choses, vous êtes trop alarmiste.
Non, c'est la question. En tout cas, en aucun cas, mon propos est d'être critique sur les directrices et directeurs d'opéra, dont, à nouveau, je dis, c'est un métier extraordinairement difficile, avec des contraintes, des injonctions contradictoires de tous les côtés, et des donneurs d'ordre publics, villes, régions, qui n'ont pas, qui ne sont pas toujours au diapason d'une ambition. Et donc, oui, il y a énormément de choses qui sont faites, et c'est une réalité. Simplement, on a évoqué la création, on en reparlera peut-être, mais je trouve que la pente est très raide et la difficulté est très grande parce que les évolutions de la société sont parfois en décalage avec ce que l'opéra peut proposer. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'avec des moyens en baisse, on demande de faire plus et oui. C'est ça cette injonction contradictoire. Donc non, pas du tout critique, mais en revanche, inquiet, oui, inquiet. Et
ça,
malheureusement,
vous plusieurs fois dans
malheureusement, il n'y a pas de baguette.
Inquiet.
Oui, mais il n'y a pas de baguette magique. Ça, c'est vrai. C'est plutôt, on y reviendra peut-être. C'est une addition de pistes qui peuvent tracer des perspectives. Il n'y a pas la baguette magique des finances publiques qui vont venir tout résoudre. C'est ça cette inquiétude. Et puis c'est pour provoquer un débat que ce texte est là.
Caroline Sourier.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, mais on est quand même sur la bonne pente. Alors effectivement, avec cette question de aussi de faire de mieux communiquer aussi sur pourquoi l'opéra coûte cher, parce qu'il y a aussi cette question-là. Absolument. Que vous soulevez bien aussi.
Et notamment pour les politiques locaux.
Absolument. Voilà. Il y a une vraie incompréhension, alors que c'est du salaire, l'opéra. Hein. C'est 75% des budgets, c'est d'abord des salaires, c'est d'abord de l'artistique et du technique. Donc on est vraiment uniquement sur le spectacle. Il y a peu finalement de structures culturelles où la place budgétaire consacrée aux artistes est aussi importante. Donc je crois que ça, il faut quand même le souligner. Et effectivement, je crois que c'est des questions fondamentales aussi de où place-t-on la culture, où place-t-on la musique. C'est un service public. Oui. Les collectivités sont habituées à avoir des très grosses masses comme ça salariales sur d'autres structures. Pourquoi pas dans les opéras? C'est le répertoire qui veut ça. On fera pas de toute façon des opéras avec 5 musiciens en fosse et 3 chanteurs. Donc ça existe, mais
on peut le faire aussi. D'ailleurs, vous l'évoquez, Jean-Philippe Piellet, des plus petites compagnies.
Mais c'est autre chose, c'est complémentaire. Mais il y a quand même tout un patrimoine, il y a quand même tout un répertoire qu'il faut qu'on puisse jouer depuis effectivement le 17e jusqu'à aujourd'hui.
Le répertoire, le patrimoine, justement, on va en parler. Qu'est-ce qu'on produit sur les scènes? Il y a Verdi, il y a Puccini, il y a Rossini, mais il y a aussi Zemlinski. Un extrait du Nain de Zemlinski au début de l'acte 1 avec le chœur de femmes. L'ensemble Ictus dirigé par Franck Oulu et c'est enregistré par France Musique parce que nous enregistrons partout en France des opéras enregistrés. En 2017, on parle de l'avenir de l'opéra, des inquiétudes autour de cet avenir avec Caroline Sourier, la directrice de l'Opéra de Lille, justement auteur d'un rapport sur la politique de l'art lyrique en France, et Jean-Philippe Thiellet, qui est président du Centre National de la Musique, mais qui vient de signer un livre, un essai, l'opéra s'il vous plaît, plaidoyer pour l'art lyrique. aux belles lettres, qui a été le directeur adjoint de l'Opéra National de Paris. Alors cette question du répertoire, elle est fondamentale aussi. Qu'est-ce qu'on montre dans un opéra? Là aussi, les lignes bougent ou doivent bouger, Caroline Sonrier?
Elles doivent certainement encore bouger, oui, mais notamment, alors un peu des deux côtés, c'est vrai qu'on était quand même concentré pendant très longtemps sur cette période de 1750-1920. Et donc, effectivement, il y a cette ouverture d'abord sur toute cette, tout ce répertoire d'opéra baroque. Donc on en a parlé tout à l'heure, évidemment, avec les Indes galantes. Effectivement...
Vous le faites, vous, hein, avec le Emmanuel Haïm.
Parce qu'effectivement, on a un ensemble en résidence avec le Concert d'Astrée. Il faut des ensembles spécialisés pour jouer cette musique-là. Et c'est quand même une vraie question aussi de la place de ces ensembles qui sont magnifiques, qui sont une vraie spécialité et une vraie fierté quand même de la France, hein, d'avoir ces musiciens absolument formidables aujourd'hui, des nouvelles générations qui arrivent et qui apportent aussi d'autres façons d'aborder ces œuvres. Donc il faut absolument qu'on puisse leur donner les moyens d'être joués dans les opéras. Or voilà, il y a quand même évidemment toujours une question, et là encore c'est des questions tout simplement de moyens. Et puis effectivement il y a la création. Ce qui est formidable dans la création, c'est que aujourd'hui les compositeurs ont tous envie d'écrire des opéras. En tout cas, on a des propositions qui viennent de partout. Et je trouve que ça montre à quel point l'opéra, justement, est bien vivant. Et bien vivant aussi parce que le public voilà, est là, est nombreux, et que les maisons elles-mêmes sont aussi bien, bien vivantes. Donc on a aussi cet écho, je trouve, des compositeurs qui proposent des très belles choses.
Vous avez l'air un peu dubitatif, Jean-Philippe Thielet, sur la création.
Non, je ne suis pas du tout dubitatif
sur le fait que le monde est là.
Il faut créer et encore créer pour montrer que l'opéra n'est pas un genre patrimonial et muséal, qui a sa noblesse, mais c'est une autre logique. Et l'âge moyen des opéras qui sont donnés dans le monde, la date moyenne de création, on l'a calculée de manière un peu théorique, c'est 1864, donc ça montre quand même que la balance penche beaucoup du côté du passé. La création, c'est très difficile, c'est extraordinairement difficile pour plein de raisons. D'abord, le langage musical. D'abord, le langage musical, c'est difficile de réinventer. Est-ce qu'on sort de la mélodie? Si on penche d'un côté, on est vu comme ringard. Si on penche de l'autre, on est vu comme incompréhensible et inaudible. Bon, donc c'est d'abord difficile pour le langage musical. C'est aussi toujours une prise de risque, parce que le public va plus volontiers, celui qui va à l'opéra va plus volontiers voir une Traviata, même pour la dixième fois, qu'un opéra contemporain. Et puis, il y a aussi la question de la diffusion, c'est-à-dire que les maisons d'opéra, parce qu'elles y sont un peu obligées, mais aussi parce qu'elles y croient, créent beaucoup en France, mais après, souvent, les créations disparaissent. Et alors, il y a des contre-exemples, parce qu'il y a du volontarisme, et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, pour éviter, dans les grandes maisons comme dans les petites, que les créations soient des coûts à toutes les orthographes du terme, et puis ne soient pas repris. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Mais en tout cas, il faut créer, utiliser aussi des langages musicaux, des esthétiques, des créateurs qui parlent au public d'aujourd'hui, et donc faire venir des écrivains, des musiques du monde, etc. etc. C'est absolument indispensable.
Et puis faire tourner ces créations
absolument.
Est-ce que ça manque de coproduction à ce niveau-là, d'ailleurs, dans les maisons d'opéra? Donc, on disait 30 maisons d'opéra, Caroline Sonrier.
Oui, alors effectivement, c'est tout à fait juste, hein, ce que dit Jean-Philippe Thielet. Effectivement, il devrait y avoir au moins, dans chaque saison de chaque opéra, il devrait y avoir un opéra contemporain. Alors, sûrement pas une création, justement. Parce que sinon, voilà, les créations ne se diffuseraient pas. Mais justement, un opéra contemporain, des reprises d'opéra contemporain. Alors, il y a eu une injonction du ministère de la Culture sur alors à certains niveaux de labels. Hein, c'est un petit peu compliqué dans les opéras, mais sur le fait de créer justement tous les ans un opéra. Et ça, je pense que ça a été finalement intéressant, évidemment, d'imposer cette question-là. Mais peut-être à double face, puisque à partir du moment où on demande à tous les opéras nationaux de créer un opéra tous les ans. Bah évidemment, ça ne diffuse pas, parce que chacun crée son opéra. Donc, je crois que ça encouragerait finalement plus si on élargissait ça simplement au fait de dire, mais comme dans un centre dramatique national où on ne pourrait pas imaginer qu'il n'y ait pas une œuvre contemporaine dans la saison, ou dans un centre chorégraphique, ou etc. Donc, c'est vrai que là, les opéras doivent vraiment avancer. Et je pense que c'est vraiment une question d'image de l'opéra, qu'un opéra est vivant si évidemment la société d'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui peuvent y être présentés. Donc c'est indispensable, effectivement, qu'on avance sur cette question-là. Mais c'est vrai que c'est des problèmes de langage aussi pour les équipes, et de façon aussi de créer, parce qu'on crée pas un opéra comme on crée une œuvre du répertoire. Ça demande un tout autre travail à tous les niveaux des équipes de production, des équipes techniques, des savoir-faire un peu différents. Et donc tout ça doit évoluer. Mais encore une fois, on est sur finalement à la fois les opéras sont très anciens, mais à la fois tout ça est très jeune. Toute cette ouverture, moi j'ai quand même encore connu il y a pas si longtemps des opéras où les abonnés, les salles étaient remplies uniquement d'abonnés qui voyaient tous les opéras de la saison. Et quand on était un spectateur qui avait envie d'aller voir un opéra, c'était impossible. Oui, et ça c'est fini. Et ça s'est quand même transformé en quelques années. Donc c'est déjà beaucoup.
On voit partout dans le monde du spectacle des grands changements depuis quelques mois. Est-ce que la crise sanitaire, notamment, on va peut-être l'évoquer si on a le temps, la mutation, ou en tout cas le développement de l'offre numérique, est-ce que pour vous c'est un épiphénomène ou c'est un tournant? C'est vraiment un tournant, y compris pour le rôle, la mission des opéras?
C'est difficile à dire. Beaucoup dépendra de l'état des finances publiques. Je parle de notre pays, mais c'est la même chose dans les pays européens. La France a plutôt la chance, a une grande chance même, d'avoir une puissance publique, qu'elle soit locale ou nationale, qui a maintenu les financements et qui est là, et qui a été là dans la crise. Qu'en sera-t-il lorsque la tension sur la dette, les finances publiques, les taux d'intérêt, lorsque ces tensions seront plus dures? Parce que sans finances publiques, il n'y a pas d'opéra, sans mécénat non plus. Et donc comment ça va évoluer dans les années qui viennent, c'est difficile à dire. À nouveau un gros nuage noir. Quant aux manières de produire, ça aussi c'est intéressant. Il y a toutes les réflexions sur notamment l'insertion des jeunes chanteurs, qui a une vraie difficulté post-crise, avec beaucoup d'artistes qui ont eu des difficultés à maintenir leurs revenus. Il y a aussi la question de la transition écologique, bien entendu. Est-ce qu'on va produire différemment? C'est extraordinairement compliqué, parce que l'opéra, à la différence d'autres industries culturelles, pour employer ce terme très actuel, c'est quand même un prototype tous les soirs. C'est des dizaines de métiers qui arrivent sur le plateau pour le spectacle le soir. Comment ça va marcher à l'avenir avec toutes les contraintes que j'évoque? C'est difficile, et je pense que diriger un opéra aujourd'hui est encore plus difficile que ça l'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans c'était déjà plus difficile qu'il y a 20 ans, etc. Donc oui, il y a des opportunités, mais bien malin est celui ou celle qui décrirait vraiment l'opéra dans 10 ans.
Oui, Caroline Sourier.
Oui, non, pour revenir effectivement à cette question d'économique et de financement, oui, certes, mais c'est vraiment des questions de volonté politique et de savoir où on place la culture dans la société d'aujourd'hui. Exactement. Et on sait à quel point aujourd'hui, justement, la culture pourrait être là pour justement faire société, pour être finalement plus proche de l'autre, plus proche de la différence. Donc voilà, c'est effectivement ces questions-là qui se posent. Et encore une fois, il y a beaucoup d'autres secteurs aussi qui demandent des moyens importants. Donc je crois que c'est vraiment des questions de choix. Et par rapport à ce que vous disiez, en tout cas, on est sur un phénomène alors dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la difficulté de faire revenir le public après la crise. Hein, un public qui est frileux, qui ne revient pas, qui réserve qui nous met tous dans des états épouvantables dans les maisons, parce que voilà, c'est des stress permanents. Mais on vient, nous, de sortir là notre bilan du premier trimestre, et ce qui est quand même très très intéressant. Alors d'abord, finalement, bon, on a réussi à remplir les salles, alors voilà, avec des frayeurs, mais on les a remplies, et on a 20% de nouveaux publics. Donc ce qui veut dire qu'effectivement on a perdu à peu près 30% du public habituel, mais il y a 20% de public qui n'était jamais venu à l'opéra. Donc c'est quand même, finalement, voilà, on peut aussi voir que ça peut être un changement de société qui finalement peut apporter aussi des
choses. Est-ce que vous n'avez pas de la chance à Lille? Est-ce que c'est représentatif de l'état des théâtres lyriques en France?
Oui, tout à fait. Autant quand on a ouvert, effectivement, on repartait d'une page blanche, et évidemment, on a mis en place des choses qui étaient tout à fait innovantes, peut-être par rapport à d'autres maisons. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et je crois qu'effectivement, on est sur un mouvement très, 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 très général.
On parlait du répertoire. Il a peu sa place en France, beaucoup aux États-Unis. Voici un petit peu de John Adams.
Control me.
enregistré aussi par France Musique. Cet extrait de Docteur Atomique de John Adams avec Gustavo Dudamel, le nouveau directeur musical de l'orchestre de l'Opéra National de Paris. Et la voix de Gérald Finlay. Je rappelle que l'Opéra, c'est tous les samedis sur France Musique à 20h. Et notamment samedi, on trouvera la nouvelle production, immense succès de Wozzeck avec Stéphane Degout enregistré au Capitole de Toulouse. Une dernière chose très rapidement, c'est qu'on parle de cette image de l'opéra. Jean-Philippe Thillet, vous évoquez dans votre livre les spécialistes de la spécialité que vous qualifiez d'authentiques réactionnaires. Votre livre d'ailleurs s'appelle L'Opéra, s'il vous plaît. C'est l'extrait d'une chanson qui s'appelle L'Opéra de Bertrand Belin, où il parle du premier rang, du président au premier rang. Est-ce que c'est pas pour que l'opéra vive? Est-ce qu'il faut pas tout simplement changer son image et que les gens entrent, franchissent les portes de l'opéra au moins une première fois, puis ensuite on a envie d'y revenir?
Absolument. Ces opéras sont des institutions souvent intimidantes et toutes les actions en direction des écoles, et Caroline, vous faites énormément à Lille, sont indispensables. Il est assez rare qu'un enfant sorte du système scolaire sans être allé au théâtre. Parce que la littérature fait partie de ce qu'on enseigne, il est, me semble-t-il, plus rare que les enfants soient allés systématiquement à l'opéra, et c'est là qu'il faut commencer. Donc évidemment, il faut ouvrir et encore ouvrir.
Caroline Sourier, d'un mot.
Oui, que dire, évidemment, mais c'est le travail, effectivement, c'est ce que je disais, que l'on fait, mais aussi auprès de tous ces publics, et d'aller aussi sur le territoire pour aller à la rencontre de ces publics. Mais c'est un travail qui vraiment est en cours, mais encore une fois, qui est encore très neuf, voilà, qui est encore très jeune, et donc il faut qu'on continue.
Et notamment à Lille, à l'Opéra de Lille. Merci à tous les deux. Caroline Sourier, directrice de l'Opéra de Lille, et Jean-Philippe Thillet. L'Opéra, s'il vous plaît, plaidoyer pour l'art lyrique, les belles lettres. On a compris que vous avez le même constat, pas toujours forcément. Il y a des gens qui, dans la vie, voient le verre plus ou moins plein.
Oh, mais je suis un optimiste. Non, je suis un optimiste, résolument optimiste. Mais il faut agir, quoi.
Vous êtes d'accord?
Oui, oui. Et puis j'aime beaucoup le coup de cœur, comme ça, de Jean-Philippe. Oui, tout à fait.
Merci à tous les deux. Demain, notre invité sera Christiane Macellaro, le directeur musical de l'Orchestre National de France, pour l'intégrale 500 au disque. Et puis les concerts, en ce moment, puisque demain, on fêtera le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns.
À réécouter sur francemusique.fr.